France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne s'intéressent à la Corse cette semaine et je donne aujourd'hui la parole à une figure bien connue de l'île, le chanteur du groupe Imovrini. Car la polyphonie corse n'est pas sa seule passion. Il donne aussi des conférences et anime des ateliers inlassablement pour parler de non-violence. Il préside une ONG baptisée Oumani qui porte haut la non-violence mais aussi la diversité linguistique. Oumani en Corse signifie « humain » au pluriel. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Jean-François Bernardini.
Bonjour à vous.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes le président de cette association qui est née il y a un peu plus de 20 ans. Comment est-elle née, cette ONG ?
Oh, elle est née de la volonté de se passionner pour les solutions, d'une conscience de l'état du monde. Et l'état du monde, il commence devant notre porte, vous voyez ? Et se dire, je ne parle d'un problème que quand j'ai un début de solution à proposer. Ce qui d'ailleurs nous oblige à nous taire bien souvent. Et c'est un peu ça qui nous a guidés avec d'autres citoyens qui sont de Corse, du continent, d'Europe, qui ont rejoint cette espèce de cette volonté collective de dire on peut faire quelque chose. Et n'oublions jamais que tout commence par un petit pas. Quelles que soient les grandes mouvances dans le monde, tout a toujours commencé par un petit pas. Donc on est parti avec cette humilité-là, mais un rêve très très grand. Et ce rêve de le porter en disant de manière très très concrète, on veut assumer notre petite part.
Cette ONG décline son action en différents programmes. La non-violence, je le disais, la préservation des patrimoines naturels, le partage des savoirs, la défense, c'est important, de la diversité linguistique et de la langue corse, ainsi que la solidarité internationale. Parlons, s'il vous plaît, d'abord de la non-violence et de la communication non-violente, puisque c'est l'un de vos sujets préférés, en plus de la musique. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes ? Dans quel cadre intervenez-vous pour ces conférences sur la non-violence ?
On intervient avec deux protocoles. Un protocole qui sont des formations assurées par des formatrices qui sont donc validées par Oumani et qui interviennent à la demande de tous les publics. Ça peut être des enseignants, des cadres sportifs, des parents d'élèves, etc. Donc on fait des formations qui peuvent durer un jour, deux jours, trois jours. Ce sont des formatrices qui assurent ça. Et on a aussi ce protocole de conférence que personnellement je donne bénévolement. Essentiellement dans le cadre scolaire, mais au-delà aussi. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant que l'école ait ouvert ses portes, ce que nous n'imaginions pas quand nous avons lancé ce programme Devenons artisans de la non-violence en 2011. Et il se trouve que l'école ouvre les portes, qu'il y a une urgence, et qu'on vient non pas se substituer, mais accompagner ce que l'école tente de faire tous les jours. Et elle le fait dans un contexte où la malbouffe verbale, mentale, comportementale est omniprésente. Pourquoi nous traversons aujourd'hui ces situations où on a l'impression qu'on est impacté par des violences quotidiennes ? L'origine, c'est la dysrégulation. Et c'est quoi la dysrégulation ? C'est un concept qu'un neuroscientifique américain qui s'appelle Bruce Perry, il a inventé le concept de l'arbre de la régulation. Tous, nous avons en nous ce petit arbre qui gère nos comportements, nos relations, nos réactions, notre impulsivité, notre système nerveux. Quand l'arbre de la régulation est en bonne santé, qu'il a été consolidé dès la petite enfance, nous sommes régulés. Nous sommes capables d'affronter la relation, le conflit, la gestion des émotions. Quand l'arbre est maltraité, qu'il est fragile, nous sommes dysrégulés. Et la conscience que nous avons, nous, c'est qu'on est aujourd'hui dans le monde dans une fabrique de masse de dysrégulation. Eh bien, c'est ça qui nous porte. Et en disant, comment on régule ? Comment on répare ? Comment on donne la bonne boussole ? Comment on donne les clés ? Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons les clés. Et c'est ce que nous portons à des publics de juniors et d'adultes, en particulier dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles. À ce jour, au bout de 700 conférences, nous avons touché plus de 120 000 juniors et adultes à travers toute la France, un peu en Belgique et en Suisse.
Vous transmettez notamment les règles de ce qu'on appelle la communication non-violente. Quelles sont celles que vous aimeriez que les enfants retiennent au terme de vos conférences ?
Alors, je ne suis pas spécialiste en communication non-violente, mais la communication non-violente est un des tiroirs dans lequel vont puiser les outils et la boussole de la non-violence. Tout commence par les mots. Avec des mots, je peux commettre des attentats relationnels. Je peux faire très mal avec des mots. Un féminicide, ça commence par des mots. Donc j'apprends à laver mes mots comme je me lave les dents, comme je lave mes mains. Je prends conscience de la toxicité des mots que j'emploie et de ceux que l'on emploie à mon égard. Et on commence par ça. Donc, la pédagogie de Marshall Rosenberg, qui est aujourd'hui enseignée dans de nombreux pays et très peu en France, mais il y a de très bons formatrices et formateurs en France pour ça, elle nous apprend justement à distinguer entre le langage chacal, qui est un langage agressif, qui est un langage du reproche, de la comparaison, et un langage girafe qui, lui, est le langage de la bienveillance, mais de l'exigence en même temps. Et donc, on donne aux juniors une balance du langage, vous voyez ? Où tu es là ? Tu crois que quand tu parles comme ça, quand tu demandes un verre d'eau de cette manière, tu crois que tu donnes à l'autre envie de te donner un verre d'eau ? Non, il n'a pas envie dans ce cas-là. Si par contre, je m'exprime en langue girafe parce que je maîtrise et que j'exprime un besoin, qui est le besoin d'un verre d'eau, sans y mêler un sentiment négatif, agressif, etc., là, j'établis une relation apaisée. Et donc, nous, on a rajouté à ça, donc le chacal, la girafe, et puis on a rajouté le petit mouton, quoi. Le mouton, c'est celui qui sait pas trop, celui qui est souvent spectateur, celui qui dit, je sais pas comment faire. Mais souvent, être mouton, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est peut-être pire encore qu'être loup, quoi. Donc, on apprend à se situer, quoi, où je suis, là. Et aujourd'hui, dans cette société où le tiers disparaît, où on devient tous voyeurs, spectateurs, hein, on voit une scène, tout le monde est spectateur et filme. Cette société-là, c'est une société dangereuse. Et c'est donc de manière très concrète de donner des clés pour être capable de ce qui est essentiel dans la vie aujourd'hui, c'est la relation à l'autre. Et donc, plus on a de belles relations avec les autres, plus on est heureux, mieux on réussit, mieux on grandit.
Et quels sont les retours de ceux et celles qui assistent à vos conférences ?
Écoutez, les retours, c'est d'abord, quand vous avez 200, 300, 500 ados qui vous écoutent pendant 2h30, en stupéfiant les enseignants qui sont là et qui se disent « mais c'est quoi la baguette magique ?» Il n'y a pas de baguette magique. C'est que quand vous faites ça, vous faites un travail de petit électricien. Vous débranchez la mauvaise prise et vous branchez la bonne. Ça soulage. Ils prennent conscience qu'effectivement, notre nature, elle est tout autre. Notre nature, elle est faite pour la bienveillance, pour la coopération, pour l'altruisme, pour l'empathie. Nous sommes faits comme ça. Le disque dur de l'être humain, il est programmé pour ça. Sauf qu'on peut le dysréguler. On peut, dans un monde qui désempathise, quand je n'ai pas reçu dans ma petite enfance et plus tard l'empathie dont j'ai besoin, je peux devenir effectivement un petit chacal, un petit crocodile, quelqu'un en précarité émotionnelle, hein, un simple regard et je fonce. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me regardes ? Je deviens précaire émotionnellement. Donc la réaction, c'est d'abord l'écoute, c'est les yeux qui pleurent, c'est l'enthousiasme. C'est 10 jeunes filles qui peuvent se lever pendant une conférence parce que vous évoquez les violences sexuelles et qui quittent la salle en pleurant. Et qui révèle à tous les enseignants qui sont là. C'est le petit gamin qui est au fond du gymnase, qui lève le doigt et qui dit « Monsieur, moi je veux quitter ce collège, j'ai demandé à mes parents de partir, parce que ici on m'appelle pas par mon nom, monsieur. On t'appelle comment ? T'as envie de... Ouais, monsieur, je m'appelle Vlad, on m'appelle Poutine. » Et là, vous regardez, il y a un silence de cathédrale dans le gymnase, et puis vous dites « On peut faire quelque chose, nous, on peut rien faire. » Et puis, quand vous avez parlé d'empathie, quand vous avez parlé de langue girafe, vous avez à un moment donné tout le monde qui se lève, qui applaudit le petit Vlad, qui est en sanglots là-bas, et beaucoup de ses camarades ont les larmes aux yeux. Et quand vous leur expliquez qu'on n'est pas au spectacle, et que ces applaudissements, peut-être que ça veut dire des engagements, et qu'ils vous répondent un petit oui timide, 2 mois après, j'appelle la CPE du collège, je lui dis « Alors, donnez-moi des nouvelles du petit Vlad. » Elle vous dit « Depuis, il est devenu délégué de classe, ses résultats scolaires ont progressé, et plus jamais personne dans le collège ne l'a surnommé ainsi. » Ça veut dire quoi ? C'est pas un problème d'autorité. C'est pas un problème de règlement. C'est un problème de prise de conscience. Et là, vous réempathisez. Vous ne réglez pas seulement le cas du petit Vlad, qui bien généralement peut finir tragiquement d'abord, mais vous réglez le collectif. Vous renforcez l'écosystème, qui devient lui-même un rempart à ces pratiques, bien évidemment, tous ces ados qui l'appelaient Poutine tous les jours, pour eux c'était un jeu. Là je prends conscience. C'est en fait 150 coups de poing qu'il prend tous les matins en arrivant au collège. Et que là il n'a plus envie ni du cours d'histoire, ni du cours. Et c'est cette prise de conscience-là qui est bien plus puissante que les fermetures à l'entrée des lycées, que les barrières, que les contrôles. Ça, c'est donner à chacun une boussole qui te permet d'agir en citoyen ou en futur citoyen responsable, empathique et capable d'appliquer cette règle d'or. Je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse.
La non-violence, je le disais, c'est l'un des volets de cette ONG Oumani qui s'occupe aussi de solidarité internationale.
Absolument.
Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner?
Par exemple, récemment, on vient de financer un lycée à Madagascar où le nombre de bacheliers était très très faible. Et la raison de cette faiblesse, c'est que les élèves, à partir de 17h, il fait nuit et ils sont obligés d'étudier avec une bougie. Beaucoup donc démissionnent, très peu de bacheliers. Et on a une association qui est partenaire, qui a donc inauguré un programme pour une installation solaire au-dessus de ces lycées, et ça vient de se réaliser là. Et donc on est heureux de recevoir les images et les photos de ces jeunes lycéens qui le soir à 17h maintenant peuvent étudier jusqu'aux horaires dont ils ont envie de disposer. C'est être solidaire avec des gens qui luttent contre le travail esclave au Brésil, en Amazonie. Avec des gens qui sont confrontés à des grands fazendeiros qui esclavagisent, qui rendent dépendants des travailleurs. Et nous, on finance là-bas, par exemple, le poste d'une maison qui est le premier lieu d'accueil quand ces travailleurs esclaves réussissent à s'évader. On a des petites actions vis-à-vis de Birmans qui, aujourd'hui, dans le contexte de cette guerre qui n'a jamais nommé comme telle, essaient d'agir, essaient de trouver des médicaments, de la nourriture, etc. La solidarité n'a pas de frontières.
Et quel lien faites-vous entre cette fondation, cette ONG et votre travail artistique avec Imouvrini?
Mais je suis au cœur de mon métier. Un artiste où il est transformant, où il est rien du tout. Je veux dire, le propre de l'art et de la culture, c'est de transformer, c'est d'élever, c'est de faire grandir. Autrement, on fait de la musique décorative. Je crois que le propre de la culture aujourd'hui, c'est d'être convoqué à hauteur des défis qui sont les nôtres. Et il n'y a pour nous aucune rupture entre ce travail-là, ce qui est un travail de semeur, de porteur de bonnes nouvelles, de transformant. Vous savez, il y a un mot que j'aime beaucoup et qu'on aime beaucoup, vivifier, être vivifiant. C'est ça le rôle d'un artiste, c'est ça le rôle de la culture. Et je crois qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous fait croire, on nous dit c'est morose, il faut amuser les gens. Non, les gens ont besoin de nourriture, les gens ont besoin de boussole, les gens ont besoin de repères, les gens ont besoin de profondeur. Le courage de la culture, c'est répondre par la profondeur, c'est répondre par l'éthique, c'est répondre par ce qui transforme, qui donne envie, qui vivifie.
Oumani, association internationale basée en Corse. Et pour le volet musical, je signale que vous serez en concert avec Imouvrini en novembre 2026 à Strasbourg, à Besançon, à Agen ou encore à Perpignan. Nouloud 33, titre du dernier album d'Imouvrini. Un grand merci Jean-François Bernardini.
Je vous remercie pour Carnet de campagne. Merci France Inter.
Et bonne journée. Au revoir.
Bonne journée.
Nous avons reçu des nouvelles d'un ancien invité. Merci à l'équipe des Carnets, nous écrit-il, car grâce à vous, nous avons recruté 10 nouveaux bénévoles. Didier Hay est le président de l'association Collectique en Essonne, Collectique avec un K, asso qui récupère des ordinateurs inutilisés, qui les reconditionne avec des logiciels libres et les revend à prix solidaire. De nouveaux bénévoles donc pour ce projet de lutte pour l'inclusion numérique et contre le gaspillage. J'en suis ravie. Car l'une des vocations de cette émission, c'est bien de susciter l'engagement citoyen. Collectique, avec un K, c'est à Saint-Michel-sur-Orge, en Essonne. La Meurthe-et-Moselle et l'Aude seront bientôt au programme des carnets de campagne. N'hésitez pas à nous écrire pour signaler des gens géniaux et des projets réjouissants dans ces départements, autour de Nancy et de Carcassonne.